section de Néhémie qui va du chapitre 9 jusqu'au chapitre 13. Premièrement, Néhémie a mobilisé le peuple pour qu'il régularise sa situation en confessant ses péchés. Et Néhémie 9, comme Daniel 9 d'ailleurs, ce sont les plus longues prières en dehors des psaumes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. En second lieu, on va voir comment, au chapitre 10, Néhémie a amené le peuple à s'engager solennellement et publiquement à obéir à la volonté de Dieu. Seulement, les engagements que l'on prend, l'être humain étant par nature inconstant, ne tiennent pas toujours dans le temps. Et on va voir, ça c'est au chapitre 10, mais on va voir qu'au chapitre 13, eh bien, il va falloir remettre le couvert, pour ainsi dire. Et là, il va être question de mettre ses pratiques aux normes en refusant le compromis. Voilà donc le programme qui vous est proposé pour cette dernière ligne droite. Alors, régulariser sa situation par la confession. Vous avez remarqué qu'au premier chapitre, rappelez-vous, quand Néhémie a pris connaissance de la situation à Jérusalem avec ce compatriote Hanani qui était de passage, eh bien, il s'est arrêté, il s'est recueilli devant Dieu et il a confessé en disant « Moi et mon peuple, nous avons péché ». C'est un moment assez poignant, assez fort, et on le retrouve alors beaucoup plus développé au chapitre 9e. Alors, je voudrais dire tout de suite que la confession des péchés, publiquement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours dans l'ADN de nos milieux évangéliquement corrects. En général, nous, évangéliques, nous sommes réticents à la liturgie. Mais dans la liturgie réformée, donc d'origine de Calvin, du XVIe siècle, de la Réforme, eh bien, c'est bien étudié, il y a un moment de la confession des péchés avant d'entrer dans la louange et puis se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et je pense que dans la célébration de nos cultes, quand on anime un culte, eh bien, il est bon de respecter cette courbe et de faire une halte sur la case confession des péchés. Alors, bien sûr, nous le faisons quand nous célébrons la scène, et c'est le moment, bien sûr, idéal. Alors, je lis donc dans Néhémie 9, au verset 1er. Le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits de toile et de sacs, et la tête couverte de poussière, en guise d'humiliation, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Puis, pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. Alors donc, il y a eu un rassemblement intentionnel pour un moment de jeûne. Alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas de texte particulier qui incite au jeûne communautaire. Jésus a bien dit qu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Maintenant, dans la pratique, on peut être amené à traverser des situations particulièrement éprouvantes où on veut se donner les moyens pour se mettre à l'écoute de la voix de Dieu et à la recherche de sa face. Et c'est tout à fait bienvenu à titre individuel. Ça fait partie des disciplines spirituelles. Et il est également, dans certaines circonstances éprouvantes pour la communauté, des moments, et je sais qu'il y a des églises qui ont coutume de proposer un jeûne communautaire. Maintenant, comme pour toute pratique de discipline spirituelle, bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans le légalisme. Et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le laxisme. Il y a toujours un juste milieu pour mettre le curseur au bon endroit. Alors, vous avez remarqué que on n'a pas lésiné sur les moyens. Ce matin, on parlait de la lecture publique de la parole. Eh bien là, on a lu pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel. Bon, il y a des milieux où quand le prédicateur prêche plus que 10 minutes, on se dit, mais là, il nous provoque. Hein. Là, vraiment. En tout cas, ce que j'observe, c'est quand on a donné du temps pour faire les choses, pour se mettre à l'écoute de la voix de Dieu. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce texte, c'est que quand on s'expose à la lumière de la parole de Dieu, c'est la parole qui nous sonde, qui nous touche, qui nous parle. Il y a une connexion intérieure. Alors, Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants qui sépare dans notre être intérieur âmes et jointures, pour dire que la parole de Dieu, j'allais dire, elle nous fait passer une IRM gratuitement et sans rendez-vous, hein, instantanée. Elle révèle ce qui est à l'intérieur et c'est redoutable. Alors c'est important de s'exposer à la lumière de la parole de Dieu, parce que dans certains milieux, on vous dit qu'il faut pratiquer certaines disciplines spirituelles, mortifier la chair, l'ascétisme pour dompter vos désirs, et puis il faut faire des recherches et se livrer à une sorte d'introspection maladive au point de faire des recherches dans votre être intérieur et de remonter jusqu'à l'ère du quaternaire. Pour voir si un beau jour, la tante Hortense, toujours elle, hein, n'a pas fait ceci ou cela qu'elle n'aurait pas dû faire ou dire. C'est beaucoup plus simple. Hein. La parole de Dieu, elle est une lumière sur notre sentier. Elle met en lumière ce qui est caché. Et d'abord, le mot confesser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient en grec, c'est homologeo. Ça a donné en français homologué. Logéo, c'est dire, homo, c'est la même chose. Quand je confesse mon péché, je dis la même chose que Dieu. Je plaide coupable, je tombe d'accord avec lui, j'accepte d'appeler péché ce que sa parole appelle péché, et j'assume, et je ne cherche pas à cacher, j'avoue ma faute, je confesse mon péché, et la bonne nouvelle, c'est que on est purifié par le sang de Jésus, on est libéré. Donc, la confession, c'est régulariser sa situation. C'est le plaider coupable. Hein, dans notre système judiciaire, un prévenu qui reconnaît son tort, un, il risque d'écoper d'une sanction pénale moins lourde, et puis deux, on va droit au but et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière, disait le psalmiste. C'est la vérité de la parole de Dieu qui, oui, me fait passer cette IRM, ce scanner, si vous voulez, et qui dit ce qui est à l'intérieur. Et il suffit d'être de bonne foi et de dire la même chose que Dieu, de tomber d'accord avec lui. D'où donc l'importance de s'exposer à la lumière de la parole de Dieu. Alors, on n'a pas le temps de lire tout le chapitre 9, mais ça va un peu. Même ma télécommande, elle fatigue. Hein. Alors donc, vous avez le droit de. Voilà. Si on récapitule ce chapitre 9, ou si on l'analyse, régulariser la situation par la confession des péchés, eh bien, on voit que Néhémie a su reconnaître que Dieu est le seul et l'unique créateur. Il évoque au verset 7 et 8 l'alliance contractée avec Abraham. Il évoque dans les versets 9 à 12 la délivrance de l'Exode, savoir d'où nous venons, Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous jusqu'à ce point parvenu? Dans les versets 13 et 15 à 15, il est question de l'alliance conclue avec Moïse et le don de la loi. Et puis ensuite, dans les versets qui suivent, il y a toute une réflexion théologique sur le péché du peuple et la grâce de Dieu. Bien, je pense que quand nous commémorons la scène, quand nous célébrons la scène, c'est tout cela que nous sommes amenés à faire. On se souvient de l'alliance que conclue avec nous, le peuple de Dieu, et le signe de l'alliance, c'est Jésus qui a donné sa vie, lui, innocent, traité comme un coupable, pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent. C'est ça le miracle de la grâce de Dieu. Et puis, on se souvient, quand on prend la scène, d'où le Seigneur nous a tirés, où est-ce qu'il nous a amenés et à quoi il nous appelle. C'est tout le message donc de la scène. Et donc, il est nécessaire et important de temps à autre de stopper la machine, de faire ce bilan, cet examen de conscience. Et on voit, quand on lit cette prière de Néhémie 9, qu'elle est pétrie de théologie biblique. D'où l'importance de connaître la vérité de la parole pour pouvoir mettre sa vie en conformité et aux normes, la norme de Dieu. Alors ça, c'est au chapitre 9. Il y a eu donc... Et dans l'histoire de l'Église, on observe que quand on a redécouvert l'inspiration et l'autorité des Écritures, eh bien, l'Église, elle a été renouvelée et elle s'est remise, je dirais, en état de marche. Elle est passée par une forme de purification et elle retrouve la vision du Dieu saint, du Dieu amour, du Dieu juste, et elle redécouvre le sens de sa mission dans le monde, tout comme sa mission de former des disciples. Et donc, ça, c'est fondamental, ce chapitre 9. Alors, au chapitre 10, on voit un engagement solennel à obéir à la volonté de Dieu. Il y a d'autres détails qu'on verra plus tard, mais d'abord, dans les versets... 31, il est question de renoncer au mariage mixte. Alors, dans la loi de Dieu, les Israélites étaient le seul peuple qui avait eu connaissance de la loi de l'Éternel. Et la loi de Moïse a été révélée par Moïse aux Israélites. Et c'est ce qui faisait la supériorité au plan moral vis-à-vis des autres peuples moyen-orientaux, contemporains. D'ailleurs, quand on étudie le système judiciaire ou pénal des peuples contemporains de Moïse au Moyen-Orient, eh bien, on considère par exemple que dans la législature séculière de ces peuples païens, les délits les plus graves, ce sont des délits d'ordre économique. On va dire voler le voisin ou prendre la vache ou le cheval. Bon, le cheval, il n'y a pas beaucoup de chevaux à cette époque-là, mais voilà. Dans la loi de Moïse, le plus grave délit, c'est de porter atteinte à l'être humain créé en image de Dieu. Et assassiner une personne, tuer quelqu'un, du point de vue de Dieu, c'est gravissime. Bien sûr que se rendre coupable d'un délit économique, c'est pas recommandé, mais ça n'a rien à voir dans le registre de la gravité. Donc, les standards exigés du peuple d'Israël étaient bien supérieurs à ce qu'on pouvait exiger dans les cultures et les sociétés avoisinantes d'Israël. Et dans la loi de Moïse, il était stipulé qu'un Israélite ne devait pas épouser une personne qui n'était pas au bénéfice de la révélation de la loi. Alors, ce n'était pas une question de xénophobie, de racisme ou de discrimination négative, mais c'est une question de bon sens. Et l'expérience le prouve, quand les Israélites ont contracté des mariages avec des populations païennes, idolâtres, eh bien, ces populations juives se sont laissées aller à l'idolâtrie. Donc c'était, j'allais dire, une mesure de prophylaxie spirituelle. Et donc, au chapitre 10, il y a eu, on va dire, un mouvement de l'esprit, et le peuple a dit, on est d'accord de renoncer au mariage mixte avec des personnes qui ne sont pas de notre peuple. Deuxièmement, au verset 32 du chapitre 10, le peuple a pris la résolution de respecter le sabbat. Et n'oublions pas que le sabbat, dans l'Ancienne Alliance, c'était le marqueur, le signe de l'Alliance. Parce que quand Dieu conclut alliance avec son peuple, il donne un signe de l'Alliance. Par exemple, Noé. Alors, il y a l'Alliance avec Adam, mais l'Alliance avec Noé, le signe, c'était l'arc-en-ciel. Avec Abraham, le signe de l'Alliance, c'était la circoncision. Avec Moïse, le signe de l'alliance, c'était le don de la loi et le sabbat. Avec David, quand Dieu a renouvelé l'alliance, le signe de l'alliance, c'était la promesse du Messie. Et dans la nouvelle alliance, le signe de la constitution du nouveau peuple de Dieu, le signe de l'alliance, c'est Jésus qui a été sacrifié pour nos péchés. Le signe de l'alliance. Eh bien, donc le peuple a pris publiquement l'engagement de respecter cet élément marqueur comme signe d'appartenance au peuple de Dieu qui était le sabbat. Verset 32. Ensuite, dans les versets 33 à 34, le peuple a décidé de donner à Dieu comme offrande d'amour la dîme. Ensuite, au verset 35, le peuple s'est décidé de réorganiser le service du temple. Et puis, dans les versets 36 à 40, le financement du service du temple. Ben, derrière tout ça, la question de fond, c'est quelle est la priorité du peuple de Dieu? Si je mets Dieu en premier, Jésus à la place qu'il doit avoir dans ma vie, eh bien, l'Église, elle va faire partie de mes priorités. Et en général, on observe aujourd'hui, par les temps qui courent, que c'est difficile, entre guillemets, de fidéliser la clientèle. Parfois, on a des gens qui disent « Moi, je veux bien m'engager à l'école du dimanche, mais on va d'abord essayer un mois, puis on verra après, hein, mais je veux pas trop m'engager dans la durée. » Et dans bien des domaines, on constate ce même constat. Mais la question qui se pose, c'est quelle est la place que Dieu, Jésus, l'Église, elle représente pour moi. Et notre défi, c'est de mettre de l'ordre dans nos priorités. Savoir à quoi dire oui, savoir à quoi dire non. Au chapitre 12, dans les versets 27 à 47, la muraille ayant été reconstruite, il y a eu une cérémonie officielle dans les versets 31 à 43 où on a célébré la dédicace de la muraille. Et bien sûr qu'on a fait une célébration pour dire merci à Dieu pour ce miracle et pour consacrer ce rempart qui était censé protéger la ville de Jérusalem. Et vous savez que dans le judaïsme, les rabbins considéraient que la loi de l'Éternel, c'était une muraille qui était établie autour du peuple de Dieu. C'est une belle image, je pense. Et puis, dans les versets 44 à 47, toujours de Néhémie 12, le peuple a mis son amour en action en apportant les dîmes et les offrandes et en louant le Seigneur. Alors quand on arrive à la fin du chapitre 12, on dit ben, c'est formidable, c'est bien parti, ça va continuer comme sur des roulettes et l'affaire est gagnée. Ben, c'est pas si simple que ça. Parce que plus ça change, plus c'est la même chose. Et je crois que c'est le philosophe Hegel qui disait que l'histoire nous enseigne, que l'histoire ne nous enseigne rien, parce que nous retombons toujours dans les mêmes ornières. Ben c'est triste, hein? C'est malheureux, hein? Vous allez me dire pourquoi apprendre l'histoire de France. Bon. On en arrive au chapitre 13. Et on va voir que ben, le diable ne pose pas de RTT, il ne prend pas de vacances, et ma foi, il faut toujours veiller, parce qu'il va falloir mettre ses pratiques aux normes en refusant le compromis. Mettre ses pratiques aux normes, eh bien, c'est se mettre dans les clous, c'est... respecter ce que Dieu attend de nous et s'y conformer et tenir dans la durée. Alors, on va rapidement survoler quatre manières dont il a fallu mettre ses pratiques aux normes en refusant le compromis dans Néhémie chapitre 13. Premièrement, versets 1 à 9, il a fallu exclure celui qui n'a pas sa place dans le peuple de Dieu. 1 à 9. Deuxièmement, dans les versets 10 à 14, il faudra rétablir le financement de l'œuvre de Dieu. Troisièmement, dans les versets 15 à 22, il faut faire passer le Seigneur avant les affaires. Et puis, quatrièmement, dans les versets 23 à 31, il faut agir pour maintenir la pureté morale et spirituelle au sein du peuple de Dieu. Voilà tout le défi, le programme de Néhémie dans ce chapitre 13. Alors, premier aspect pour mettre ses pratiques aux normes en refusant le compromis, dans les versets 1 à 9, il va être question d'exclure celui qui n'a pas sa place dans le peuple de Dieu. Alors je lis au verset 1. Avant, à cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse, en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'Ammonite, ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu. Puis je saute au verset 3. Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Alors, on a lu le texte de Deutéronome 23, versets 3 à 6, qui dit que les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la dixième génération. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau, et au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, etc. Et plus loin au verset 6, toujours dans Deutéronome 23, « Tant que vous vivrez, avait dit l'Éternel, vous ne conclurez pas de traité de paix et d'amitié avec eux. » Donc, en somme, on avait complètement perdu de vue cet aspect de la volonté de Dieu et on a complètement zappé ce commandement. Et voilà ce qui s'est passé au verset 4. Avant cette décision, le prêtre Eliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de Tobia... Je rappelle que Tobia, c'est l'ennemi déclaré et juré de Néhémie. Donc là, on laisse le loup entrer dans la bergerie. Verset 5, je reprends, avait mis à la disposition de ce dernier une grande salle où étaient précédemment entreposées des offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. verset 6, « J'étais absent de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerxès, le roi de Babylone. » Je reprends au verset 6, « Au bout d'un certain temps, je sollicitais de l'empereur un nouveau congé, et je retournais à Jérusalem, et là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Éliashib en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobia. J'en fus très irrité, et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia, puis je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles, et j'y fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. » Eh bien, Néhémie a découvert que le temple ne servait plus à l'usage pour lequel il avait été consacré. Eh bien, Jésus éprouvera exactement le même sentiment quand il verra que cette maison de prière qui était censée être à la gloire de Dieu, c'était devenu un centre commercial où on faisait du business. Et Jésus a renversé les tables des changeurs de monnaie. Donc, on sait que Éliashib ne semblait pas avoir été favorable aux réformes de Néhémie. Et Tobia, c'était un ammonite. Les ennemis des Juifs, rappelez-vous, ils n'avaient pas réussi à interrompre les travaux de construction de la muraille. Ils ont essayé d'arriver à leur fin en s'unissant par des alliances avec des hommes influents de Juda. Ben, ça me fait penser, vous savez, dans les services secrets, bon, chaque pays a ses agents secrets, hein, et il y a des gens qui s'infiltrent, la cinquième colonne, ils sont particulièrement brillants, intelligents, vous pensez qu'ils sont de votre côté, et ils vous roulent bel et bien dans la farine par derrière. Eh bien, c'est des agents doubles. Alors, quand il y a des agents doubles dans l'église de Jésus-Christ, ben, l'aiguille, elle est dans le rouge. Et là, on est mal. Alors, curieusement, cette grave atteinte à la sainteté de l'Éternel ne semblait nullement indisposer ni Éliashib, ni ses collègues. Ben, c'est inquiétant quand des soi-disant responsables spirituels ne prennent plus en compte la gravité de la situation. Et tout cela avait eu lieu, bien sûr, quand Néhémie était retourné à la cour du roi de Babylone. Il avait quitté Jérusalem. Loin des yeux, loin du cœur, c'est toujours la même chanson. Quand le chat est absent, les souris dansent. Eh bien, la réaction de Néhémie devant cette situation, elle a été exactement la même de Moïse quand il a découvert l'abomination du veau d'or. Rappelez-vous. Et Moïse a été épris d'une sainte et juste colère, et il a fallu mettre hors d'état de nuire les coupables et purifier le peuple de Dieu en vue d'un retour à la normale. Alors, l'apôtre Paul énonce le principe spirituel qui doit prévaloir. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au verset 1 du chapitre 7, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Et 2 Corinthiens 7, verset 1, « Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte, en révérant ou dans la crainte de Dieu. Donc, Néhémie va remettre de l'ordre dans ce désordre, et puis il va ensuite rétablir le financement de l'œuvre de Dieu. Parce que là encore, les belles résolutions du chapitre 10, eh bien, sont tombées dans les oubliettes. Alors je crois que dans nos églises, faut prier pour les trésoriers, parce que c'est pas toujours un ministère populaire. Et les trésoriers, de temps en temps, ils ont besoin de dire au peuple, eh bien voilà, en assemblée générale, on a voté tel budget, voilà où nous en sommes. Et voilà, il faut... Hier, rappelez-vous, dans les équipes qui gagnent, il y a des joueurs qui dynamisent les autres. Et puis, il y a la loi du tableau d'affichage. C'est important de savoir où est-ce que l'équipe en est. Est-ce qu'on est dans les clous? C'est pas quand on est complètement dans le rouge qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc, au chapitre 13, verset 10, « J'appris aussi que les parts des Lévites ne leur avaient pas été remises et que les Lévites et les musiciens chargés des offices s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi, je fis des reproches aux chefs du peuple et je leur dis, « Pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon ? Je rassemblai les Lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leurs fonctions. » Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dîmes et les lévites étaient censés être, entre guillemets, à temps plein, au service du temple. Et ils vivaient des offrandes qu'apportait le peuple. Eh bien, si le peuple n'apportait plus d'offrandes, eh bien, les lévites devaient travailler leur lopin de terrain et puis faire pousser leurs légumes dans leur jardin, et ils n'avaient plus le temps de s'occuper de leurs fonctions. Quand l'œuvre de Dieu, ou du moins quand le peuple de Dieu retient le financement de l'œuvre de Dieu, eh bien, ça le fait plus, hein. Et certainement qu'il y a bien des ministères qui sont trop vite enterrés parce qu'il n'y a pas eu le financement nécessaire pour permettre leur viabilité. En tout cas, suite à la négligence du peuple, eh bien, les ressources manquent. Et encore une fois, pourtant, ce peuple s'était engagé. J'allais dire, bon, c'est comme si on prend une décision en assemblée générale, on vote des deux mains, mais après, ça ne suit plus. Alors, un autre domaine où Néhémie a dû ferrailler, batailler, dans les versets 15 à 22, c'est la question du respect du sabbat. Et la question qui tue, c'est qu'est-ce qui a la priorité? Est-ce que c'est mon business, faire de l'argent, ou respecter le sabbat? Verset 15 du chapitre 13. À la même époque, je remarquais en Juda des gens qui, un jour de sabbat, foulaient du raisin au pressoir. D'autres, qui rentraient des gerbes, les chargeaient sur des ânes et transportaient du vin, des raisins, des figues et toutes sortes d'autres fardeaux pour les amener à Jérusalem en plein jour de repos. Je leur fis des reproches le jour où ils vendaient leurs marchandises. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis, comment pouvez-vous laisser faire un si grand mal et profaner ainsi le jour du sabbat? Et verset 18, c'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi, et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs. Verset 19, puis je donnai ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit, avant le début du jour du sabbat, et je postai quelques-uns de mes serviteurs à proximité des portes pour veiller à ce qu'aucun fardeau ne soit introduit le jour du sabbat. Donc vous voyez que Néhémie, c'est pas un tendre, il est décisif, il sait prendre les décisions qu'il s'impose, et on l'a déjà vu, il a le courage de reprendre ses collègues, les notables. Pas évident, hein. Comment reprendre des collègues? Et dans l'Église, parfois, il y a des gens qui s'engagent, plus ou moins, mais si on ne peut pas vraiment compter sur eux. Alors d'abord, s'il n'y a pas vraiment un contrat clairement établi, voilà ce qui est attendu de toi, et si la personne ne coche pas les cases, on a du mal à reprendre la personne, à lui dire, mais écoute, il y a ceci, il y a cela qui pose question. Et donc, d'où l'importance d'une communication claire, d'avoir une fiche de poste, pour savoir ce qui est attendu. Mais en tout cas, il semble bien que les collègues de Néhémie ne s'offusquaient pas du fait que le sabbat n'était pas respecté. Et je rappelle, il ne faut pas tomber dans le légalisme. Le respect du sabbat, c'était un marqueur, signe d'appartenance au peuple de Dieu, tout comme au temps d'Abraham, c'était la circoncision. Donc, si on prend des libertés avec la parole de Dieu, ici ou là, petit à petit, on lâche du lest dans un domaine, mais petit à petit, on peut lâcher du lest par ailleurs, et puis on prend de plus en plus de liberté. Et pour Néhémie, qui était un homme de principe, le non-respect du sabbat, c'était pas anecdotique, c'était pas un détail. Alors vous allez me dire, dans la Nouvelle Alliance, quid du sabbat? Alors, avant de parler de la Nouvelle Alliance, il faut se poser la question. C'était quoi le sabbat dans l'Ancien Testament? 6 jours, travail, rupture, 7e jour, stop. On rompt le rythme, on arrête la machine pour se rendre disponible et se mettre à l'écoute de la voix de Dieu. C'était ça, en somme, la signification théologique du sabbat. Et dans la Nouvelle Alliance, le sabbat, c'est le fait de stopper la machine, dire stop, on a le nez dans le guidon, on vit dans un monde où il y a un rythme, et la vie professionnelle et la vie moderne étant ce qu'elle est, si on n'y prend pas garde, c'est métro, boulot, dodo, et puis un peu de vie perso, mais à la fin, il reste plus rien pour entretenir notre relation avec Dieu. Et donc, le sabbat, me semble-t-il, dans la Nouvelle Alliance, bien sûr, il n'y a pas de verset noir sur blanc qui dit il faut respecter le sabbat, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Mais malheur à nous si nous ne respectons pas le sabbat, et on le voit bien. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a des gens qui sont en burn-out ou en profonde déprime parce qu'ils n'ont pas su en amont vivre avec une certaine hygiène de vie, savoir stopper la machine et savoir se ressourcer. Parce que, me semble-t-il, dans la Nouvelle Alliance, l'objet du sabbat, c'est d'arrêter la machine, de couper le rythme et de se rendre disponible pour se mettre à l'écoute de la voix de Dieu, dans le souci de se ressourcer personnellement. Parce que l'homme ne vivra pas du pain, du vin, du boursin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il faut c'est mettre de l'ordre dans ses priorités. Et aujourd'hui, entre parenthèses, nous, les chrétiens évangéliquement corrects, qui prenons la bonne attitude chaque matin ou le soir avant de se coucher, c'est selon, de prendre le temps pour méditer la parole, se poser devant Dieu et faire une halte et faire un état des lieux, mes amis, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça empêche la sécu de s'enfoncer dans le déficit encore pire qu'elle ne l'est. Et je crois savoir que la méditation, on en parle beaucoup dans le milieu séculier et paramédical. Maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on médite, comment. Bon, je vais pas vous la faire, mais voilà. Donc, le ressourcement spirituel. Et Dieu nous a appelés à être non pas des surmenés, des surbookés, Ce qui impressionne quand on étudie la vie de Jésus, les spécialistes nous disent que quand vous mettez toutes les journées de travail que Jésus a travaillées, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on aboutit. Ce ne sont pas des journées de 35 heures, des semaines de 35 heures, mais on aboutit grosso modo à quelques mois de ministère. Jamais chez Jésus on entend « j'ai pas le temps, je suis surbooké, revenez dans 3 mois ». Jésus, quand il est mort, il a dit « tout est accompli ». Jésus, il savait à quoi dire oui, à quoi dire non. Quelqu'un a dit dans une journée de 24 heures, il y a suffisamment de temps pour faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu. C'est gratuit l'enseignement, ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Et là, on est dans le même bateau, on se donne la main. Quelqu'un a dit, savoir dire non à une opportunité pour pouvoir dire oui. Pardon. Savoir dire non à une opportunité pour pouvoir dire oui à une priorité, ça demande beaucoup de maturité. Et ça, c'est tout un programme. Mais en tout cas, le ressourcement, le sabbat spirituel. Ne pas faire passer les affaires avant le Seigneur. Et enfin, Néhémie a dû mettre de l'ordre dans la question des mariages mixtes. Agir pour maintenir la pureté morale et spirituelle au sein du peuple de Dieu. Verset 23. À cette même époque, je constatais également que des Judéens avaient épousé des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlait l'asdodien et aucun ne savait la langue des Juifs. Ils ne connaissaient que celle de tel ou tel peuple. Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Néhémie n'a pas dit « Smile, God loves you ». Hein, tu peux sourire, Jésus t'aime. Verset 25. Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Je bâtis même quelques-uns d'entre eux. Je leur arrachai les cheveux. Puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à ces fils d'étrangers et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous-même. Bon ben, c'est manu militari, c'est hard, hein. C'est du lourd. Bon, c'est pas la seule chose à retenir et j'espère que ce n'est pas votre occupation dominicale dans votre communauté. Mais si on savait déclencher l'artillerie lourde au sens spirituel pour des problèmes d'ordre spirituel comme Néhémie le fait au niveau matériel, ben je pense qu'on aurait moins de... Et puis ensuite, Paul dit, Néhémie dit, regardez, Salomon, vous avez vu tous les problèmes avec les femmes étrangères et l'idolâtrie et tout ça et tout ça. Et on connaît la fin de Salomon. Bon, alors il faut tirer un trait au bas de la page. Et à la fin du chapitre 13, la bonne question c'est quid du ministère de Néhémie? Si on devait lui donner une note, quelle note on pourrait lui donner? Alors, manifestement, Néhémie a été l'homme fidèle, elle a été l'homme de la situation. On ne voit pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à titre personnel. Ça fait penser à Paul quand il écrit aux anciens d'évêques d'Éphèse. Il leur dit « Je suis pur du sang de vous tous ». Il n'avait rien à se reprocher et personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Pour autant, les réformes que Néhémie a initiées n'ont eu qu'un effet limité dans le temps. Elles n'ont pas eu un effet durable. Parce que l'histoire nous enseigne que l'histoire ne nous apprend rien. Et franchement, on a une impression d'inachèvement. En raison de l'inconstance du peuple, enclin au déclin, et on sent que Néhémie aurait voulu aller plus loin. Mais c'était plus difficile pour lui de reconstruire le peuple moralement et spirituellement que de reconstruire les murailles. Et soyons clairs, s'il y a des travaux qui nécessitent l'intervention d'un artisan, si dans l'église vous avez des frères qui peuvent faire le job à moindre frais, on apprécie, c'est nécessaire, mais c'est pas ça le plus dur de bâtir l'église. C'est les pierres vivantes que nous sommes qui ne restons pas toujours en place. Parce qu'on observe que la purification du cœur demeure un défi plus important et plus exigeant encore que la reconstruction des murailles. Il faut bien se dire que nous, les chrétiens évangéliques, engagés dans l'œuvre du Seigneur, en tant que paroissiens ou en tant que chrétiens engagés dans l'Église, on s'engage dans ce qu'il y a de plus difficile à faire sur la terre. Bâtir une vie de couple qui tient la route, une vie de famille qui tient debout, être un témoin de Christ dans la vie professionnelle, mettre sa vie personnelle aux normes et en conformité, être dans les clous et puis inspirer un modèle à suivre dans l'Église, c'est pas simple, hein. Il faut être rempli du Saint-Esprit et on rame à contre-courant sur toute la ligne. Donc Néhémie, on aurait aimé que ça aille plus loin. Si on observe l'histoire de l'Église, c'est comme la marée. Il y a la marée haute et puis il y a la marée basse. Hein. Il y a des moments où l'Église, elle brille de ses plus beaux atours et de ses mille feux. Elle est dans les clous, elle remplit la mission, elle forme des disciples, elle évangélise, elle prêche aux perdus, elle envoie, elle soutient des missionnaires. Puis il y en a d'autres où, il y a l'impureté morale, les fausses doctrines, le laisser aller, le laxisme, et puis la perte de vision de la formation des disciples, de l'évangélisation, de la mission. Malheureusement, c'est en rapport avec l'inconstance du cœur humain. Et c'est le triste scénario que trop souvent... Alors c'est un peu comme dans le livre des Juges, hein. Le peuple est dans la misère, il crie à Dieu, l'Éternel suscite l'homme de la situation ou la femme de la situation. Ça tient un certain temps, mais au bout d'un temps, plus ça change, plus c'est la même chose, et l'homme retombe dans le péché, il recrie à Dieu, et puis rebelote, et on a l'impression que souvent c'est un vieux disque rayé, et ça tourne en rond. Mais entre parenthèses, Dieu, il faut de la patience, hein, et il faut prendre du recul. Mais bon, j'arrête là. Concernant Néhémie, je voudrais quand même, en terminant, évoquer, alors on l'a dit, l'apôtre Paul. La deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est son testament spirituel. Bien finir sa course dans un monde en déroute. Quand on fait des visites à des personnes... dans des homes, par exemple, de seniors ou de personnes âgées. C'est pas toujours simple, hein. Et on prend la mesure de personnes qui, alors parfois, sont complètement abandonnées de leur famille. Il y a des enfants, la seule chose qu'ils attendent, c'est que les parents, ils disparaissent pour toucher l'héritage. Il y a des sentiments de blessure, d'amertume, de rancune. Alors quand on lit les dernières paroles de Paul, alors là, c'est pas du tout le genre de la maison. Dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, voilà le bilan que Paul dresse sur sa vie. Il va tirer un trait au bas de la page. Il sait que ses jours, ses heures sont comptés. Il est en liberté conditionnelle, en état d'arrestation. Il est à la merci de la peine capitale. Et vous lui auriez fait passer une IRM gratuitement et sans rendez-vous, que vous n'auriez trouvé aucune trace d'amertume, de rancune. Et pourtant, il en a encaissé des coups. En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Une libation, c'était ce qu'on ajoutait, c'était quelque chose de liquide sur une offrande végétale ou animale. Le moment de mon départ est arrivé. Et l'image qu'il utilise, c'est très évocateur. Le moment de mon départ est arrivé. On peut penser à un marin qui va lever l'ancre sur son bateau. Il va sortir du port et il va se lancer dans la grande aventure pour ne plus jamais revenir à son port d'attache sur la terre. Il y a un peu cette idée-là. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Paul ne s'est pas trompé de cible. Il y a tellement de gens qui se disent, mais si c'était à refaire, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas fait ça. Et on peut parfois se tromper de cible ou de combat. Je pense que nous, on a eu 5 enfants, et quand je pense à notre premier enfant, parfois, on attribuait une importance éternelle à un petit détail qui en valait pas la chandelle. Après, avec l'expérience, on apprend à relativiser, et il y a des différences de degrés, de choses importantes ou non. Mais en tout cas, Paul ne s'est pas trompé de cible. J'ai achevé ma course. Il a le sentiment d'avoir coché toutes les cases. Le sentiment du devoir accompli. Ben, comme Jésus, quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Jésus est mort jeune. D'un point de vue humain, de vous à moi, il aurait pu continuer le ministère et puis là, au moins, ça aurait été fait comme il fallait. J'ai gardé la foi. Autrement dit, il a le sentiment d'avoir franchi la ligne d'arrivée honorablement. Pas d'orgueil, pas d'autosuffisance, un constat factuel, réaliste, remarquable. Et la couronne de justice, etc. Et puis plus loin, dans les versets 11 à 14, moi ce qui m'impressionne, Paul nous donne une belle leçon de spiritualité et d'humanité. Trop souvent, on pense que, et ça c'est des philosophes grecs, être spirituel, c'est renier son humanité ou sa féminité. Eh bien Paul, il ne nous donne pas à choisir entre l'un ou l'autre, mais il assume pleinement son humanité. Et ça c'est un christianisme qui donne envie. Parce que voilà ce qu'il dit, verset 11, « Seul Luc, le médecin bien-aimé, est encore avec moi. » Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. Paul est en prison. Il est à quelques encablures de mourir martyr. Des membres qui ont été dans son équipe au dernier moment, et au moment où il aurait le plus besoin de compter sur eux, l'ont lâché. On pourrait même dire poignarder dans le dos. Vous pensez que telle ou telle personne, elle est dans votre équipe, et au moment où vous en avez le plus besoin, elle vous lâche. C'est du lourd, hein? C'est hard, ça fait mal. Alors Paul, c'est pas un chrétien solo qui vit sur son île. Tout Paul qu'il est et qu'il était, il a besoin des autres. Et il va demander aux Colossiens de prier pour moi, pour mon ministère, pour que j'annonce la parole, etc., comme je dois le faire. Et puis, il dit, verset 13, « Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. » Non, mais on pourrait dire, quelle importance capitale pour toute l'histoire de l'Église, ce petit détail insignifiant, le manteau que j'ai oublié chez Carpus. J'ai lu un article un jour, c'était « C'est quoi un missionnaire ?» Un missionnaire, quand il se coupe, ça saigne. Ah ouais, ah lui aussi. Moi j'ai eu le privilège de travailler avec Georges Verver, le directeur et le fondateur international de OM, Opération Mobilisation. Et une des particularités de Georges Verver, c'est qu'il était transparent. À Urbana, les grands rassemblements de jeunes, 19 000 jeunes, il osait, lui, un leader spirituel, confesser devant des jeunes chrétiens ses luttes qu'il avait eues en tant que chrétien contre la pornographie. Alors l'establishment évangélique était my God, c'était choquant, mais les jeunes, ils disaient, ah ben au moins lui, il est transparent. Parce que lui, à lui aussi, ça arrive. On a tellement tendance à mettre les serviteurs de Dieu sur un piédestal au-dessus de la médiocrité internationale dans laquelle nous pataugeons. Et nous pensons que ces gens-là, ils sont toujours d'accord avec leur femme. Ils disent toujours, mais oui chérie, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Et on se fait des idées un petit peu... Et Paul dit, non, moi, j'ai froid, ramène-moi le... Et puis, il dit, amène-moi aussi les livres et surtout les parchemins. Je ne vais pas faire de la pub pour la Maison de la Bible ou BLF, mais un bon bouquin, c'est bon pour le moral. Et on pense que peut-être c'était des parchemins, des manuscrits qui étaient déjà en circulation ou qu'il avait... Mais l'idée, c'est que dans les moments où on a besoin de réconfort, un bon bouquin, ça, c'est bon pour le moral. Et puis, alors là... Ensuite, Paul va faire le bilan dans ses relations et il va voir quels ont été les amis dans le combat et quels sont ceux qui ont viré leur cutie ou qui sont devenus des ennemis. Ben, c'est un bon exercice à faire parce qu'il y a des gens, soyons clairs, il y a des gens qui nous ressourcent et qui nous font du bien. En général, on passe pas beaucoup de temps avec eux, on les croise pas souvent et pas longtemps. On aimerait passer nos prochaines vacances avec eux. Il y en a d'autres, soyons clairs, il y a des personnes qui nous font perdre notre temps. Il y en a d'autres qui nous pompent, qui nous sucent, qui nous... Et il y a des personnes, oui, qui sont comme le séjour des morts, qui ne disent jamais assez. Et il y a des personnes toxiques, n'ayons pas peur des mots. Et il faut savoir se protéger. Et Paul fait tout le bilan relationnel, et je trouve que c'est sage. Et puis, j'admire, et c'est une belle leçon que Paul nous donne, assumer les déceptions et les injustices sans rancœur. Parce que Paul, il a des blessures de guerre. Alors, il avait un gilet pare-balles, oui, on en a parlé. Mais il a encaissé des coups. Et il y a eu des coups tordus. Il a été poignardé dans le dos. Des gens qui pensaient être de son équipe, ben c'est comme dans une équipe de foot, hein, quand l'arrière central il marque un but, mais contre son camp, ça le fait pas. Hein. Et là, Paul va dire, dans les versets 14 et 15, « Les critiques d'Alexandre, le forgeron ou l'orfèvre, d'après, m'ont fait beaucoup de mal. » Alors moi, j'admire... cette leçon d'humanité et de spiritualité que Paul nous dit, que Paul nous offre. Il ne vit pas dans le déni. Il ne dit pas non, c'est rien, c'est bon, ça passe. Non, ça lui a fait beaucoup de mal. Et moi, j'admire cette manière d'être lucide en exprimant une souffrance. C'est factuel. Et vous auriez fait passer une IRM à Paul que vous n'auriez trouvé aucune trace de volonté de vengeance, ni de rancune. Parce que Paul dit, le Seigneur va gérer son dossier. Je remets à Dieu le soin de gérer ce dossier-là. Et Alexandre, il aura des comptes à rendre à Dieu. Moi, je... Ouf, merci Seigneur, j'ai la tête au-dessus de l'eau et je veux dormir normalement la nuit. Hein. Et puis, plus loin, il va dire, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur reste avec moi. Toujours le Seigneur. Et enfin, on aurait pu dire, après tout ça, il jette le bébé avec l'eau du bain. Parce que soyons clairs, l'Église, parfois... Elle est censée être un milieu bienveillant et accueillant et bénissant, mais l'Église peut être un milieu blessant. Et en général, une personne qui a été blessée pour toutes sortes de raisons par l'Église, eh bien, pour la rattraper après et lui faire comprendre qu'elle doit retourner dans une Église, elle va vous dire, moi, j'ai donné, c'est bon. Et la coupe est pleine, ne venez plus me parler. Et moi, ce qui me touche, c'est que quand on lit les dernières paroles de Paul, au final, mais il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et au final, il dit, mais la plus belle des choses qui nous reste sur la planète Terre, c'est l'Église que Jésus bâtit. Ben là, il faut être rempli du Saint-Esprit et il faut être accroché au Seigneur et regarder à lui et non pas aux hommes. Bon, j'étais très bavard et je vous félicite parce que j'ai pas eu besoin de sortir ma perche spirituelle pour... Alors, dans ce que j'entends, qu'est-ce qui me parle? Voilà, la confession du péché au niveau personnel et communautaire, est-ce que c'est la règle? Est-ce que c'est l'exception? Pourquoi avons-nous généralement tant de mal à nous tenir aux résolutions que nous prenons? C'est bien au 1er janvier de là je décide de lire la Bible en un an. Et il y a des plans BLF, tout ça, il y a des choses intéressantes. Mais pourquoi est-ce que et puis oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on prend des engagements mais on a du mal à tenir parfois. 11. Qu'est-ce qui peut nous aider concrètement à refuser le compromis pour mettre nos pratiques aux normes dans notre vie personnelle, de couple, de famille, professionnelle, d'église? Et puis enfin, qu'est-ce qui peut concrètement aider à surmonter les déceptions, les injustices, les blessures venant de personnes chrétiennes ou non, dans la vie de tous les jours, comme dans le cadre d'une communauté blessante plutôt que bénissante.